séduit, Seigneur. Et je me suis laissé séduire.
Le terme qu'il utilise est un terme très difficile. On a traduit ici par séduire, mais on pourrait aussi traduire par décevoir. Ça vient d'une racine qui est très proche de patar, qui signifie ouvrir, qui veut dire aussi ouvrir, rendre vulnérable. C'est un peu ça. Rendre vulnérable. Pititani. Dans les livres de sagesse, vous avez toujours le sage d'un côté, et puis face au sage, vous avez le naïf, le fou, le niais. Et c'est la même racine. Celui qui est vraiment vulnérable. Celui qu'on peut frapper, qu'on peut blesser, facilement, impunément même. Eh bien voilà, tu m'as touché, tu m'as séduit, tu m'as déçu, Seigneur. C'est un peu tout ça ensemble. Et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé. Tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à moquerie, la fable de tout le monde. Tout le monde se gausse de moi maintenant, on se moque de moi, il répète toujours la même chose. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier et proclamer « violence et ruine ». Effectivement, je dois dire la même chose tout le temps. Faites attention, il ne restera plus rien de Jérusalem. Mais les gens en ont assez. La parole du Seigneur a été pour moi opprobre et raillerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Et vous voyez que maintenant, c'est en troisième personne. Il dit au Seigneur ce qu'il pense. La parole du Seigneur a été pour moi opprobre et raillerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Alors, c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, je ne pouvais le supporter. J'ai mal à cause d'eux, j'ai mal à cause de la parole, j'ai mal. J'entendais les méchancetés de plusieurs, terreurs de tous côtés, dénoncer, dénonçons-le. Tous ceux qui étaient mes amis guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire, et c'est le même mot. Peut-être se laissera-t-il décevoir. Nous le vaincrons et tirerons vengeance de lui. Il peut se venger de nous, nous vengerons de lui. Mais, et vous sentez très bien, hein, le va-et-vient de sa réflexion, de son cœur, blessé. Mais le Seigneur est avec moi. Comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. C'est ce qu'il pense, hein, à l'intérieur de lui. Mais toi, Seigneur Sabaoth, qui examine, mais toi, Seigneur des armées, qui examine avec justice, et pénètre les reins et le cœur, puissé-je voir la vengeance que tu tireras de ces gens.
Car c'est à toi
que j'ai remis ma cause. Il faut quand même que ça serve à quelque chose. Hein. Et alors, vous avez... C'est une succession de versets qui n'ont pas l'air de se suivre. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du pauvre de la main des malfaisants. Ce va-et-vient. Nous connaissons ça, hein? Enfin, peut-être pas vous. Oh, maudit soit le jour où je suis né. Et le voilà qui retombe. Dépression. Le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne soit pas béni. C'est Job. Maudit soit l'homme qui annonça à mon père cette nouvelle. Un fils, un garçon t'est né. C'est le chapitre 3e de Job. Et le combla de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que le Seigneur a renversées sans pitié, qu'il entende le cri d'alarme au matin et le cri de guerre en plein midi, car il ne m'a pas fait mourir dans le sein. Ma mère eût été mon tombeau, et ses entrailles toujours en travail. Espérant toujours une naissance. Pourquoi donc suis-je sorti du sein pour vivre peine et tourment et finir mes jours dans la honte? Voilà cette confession. Vous voyez que ces confessions sont vraiment un homme persécuté, déprimé, qui s'épanche devant Dieu, et chaque fois qu'il se plaint au Seigneur, le Seigneur le renvoie à son travail. Le Seigneur écoute, mais on dirait qu'il ne change rien. Il ne devient même pas le vengeur, comme Jérémie voudrait qu'il le devienne. Tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire. Tu m'as appelé, je suis entré dans ton appel. Tu as été finalement le plus fort. C'est toi qui me tiens. Mais ce que tu me demandes de vivre, c'est intenable. Oui, tu es avec moi. Et quand ça va bien, je dis, mais c'est ça, c'est bien, Seigneur. Et je prie, et je suis content, et je te loue. Quand même, pourquoi est-ce que je suis né ? Pour vivre mes jours dans la honte, pour vivre peines et tourments et finir mes jours dans la honte. Où es-tu, Seigneur, dans tout cela? Il n'y a pas de réponse. C'est au lecteur à la faire. Où es-tu, Seigneur, dans ma chienne de vie? Tiens, je n'en ai pas pris. Il y a une traduction moderne qui a été faite par Dietrich Bonhoeffer, qui est mort torturé pendant la guerre, un pasteur protestant, resté très longtemps en prison et qui a écrit de beaux livres de théologie quand il était en prison. Et il a comme ça toute une reprise du texte, je l'apporterai, un texte des confessions. Voilà toutes sortes d'oracles qui datent, semble-t-il, de l'époque de Joachim. Donc pratiquement depuis le chapitre 7e, jusqu'ici ce sont des oracles qui datent, semble-t-il, pour autant qu'on ait pu les repérer dans le temps. Et puis nous en avons encore quelques-uns après, surtout du temps de Sédécias, et il ne parle pas toujours de Sédécias, de Joachim il en parle de temps en temps avant, ici il ne parle pas toujours de Sédécias, mais on peut les fixer dans cette époque-là. C'est l'époque la plus troublée. C'est l'époque où on ne sait vraiment pas de quel côté on va aller. Mais Sédécias fait une sorte de revirement par rapport à Joachim. Joachim voulait tout le temps aller, nous aurons d'ailleurs l'occasion de voir dans les textes qui suivent, qui sont plus biographiques, Joachim voulait suivre les Égyptiens. Sédécias s'est plutôt laissé influencer par Jérémie, qui disait, mais soyez fidèles au moins à votre serment, vous avez fait un contrat avec Babylone, et bien payez régulièrement le tribut militaire, le tribut de guerre à Babylone. Et donc il s'agit ici de Sédécias. Parole qui fut adressée de la part du Seigneur à Jérémie, quand le roi Sédécias lui dépêcha précisément le chef de la police, Pashour, fils de Malkiya, et le prêtre Tsefania, fils de Maaseya, pour lui dire « Consulte donc le Seigneur pour nous. » Voilà. Il faut quand même une certaine confiance à Jérémie. Même si le chef de la police a mis au carcan pendant une nuit Jérémie. « Consulte donc le Seigneur pour nous. Car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. » Et il faisait la guerre parce qu'on n'avait pas payé son tribut. Peut-être le Seigneur recommencera-t-il en notre faveur tous ses prodiges, si bien que l'ennemi devra se retirer devant nous. Donc il vient mettre le siège devant Jérusalem. Jérémie leur dit, vous porterez à Sédécias cette réponse. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire revenir les armes de guerre que vous tenez et avec lesquelles vous combattez hors les murs le roi de Babylone et les Chaldéens, vos assaillants. Je vais les accumuler au milieu de cette ville. Et c'est moi-même qui combattrai contre vous, à main forte et à bras étendus, avec colère, courroux et grande fureur. Je frapperai les habitants de cette ville, hommes et bêtes, d'une affreuse peste, ils mourront. Ramenez un peu toutes vos armes à l'intérieur de la ville, à l'arsenal. Ça ne sert à rien de lutter. Bon, c'est le roi de Babylone, il vous avalera, en moins de temps qu'il faut pour le dire, donc ça ne sert à rien. Mais laissez un peu le Seigneur agir. Au fond, il revient avec ce qui s'était passé en 701, à l'époque de Sennachérib, quand Sennachérib avait mis le siège devant Jérusalem. Ézéchias était alors le roi de Jérusalem, et puis en une nuit, il était parti. Peut-être que ça va recommencer, hein. Le Seigneur avait agi de manière un peu extraordinaire à ce moment-là, pourquoi pas? Après quoi, oracle du Seigneur, je livrerai Sédécias, le roi de Juda, ses serviteurs et la population de cette ville qui aura échappé à la peste, à l'épée et à la famine, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis et aux mains de ceux qui en veulent à leur vie. Il les passera au fil de l'épée, sans merci, ni ménagement, ni pitié. Ça finira de toute manière par un carnage. Et à ce peuple, tu diras, ainsi parle le Seigneur. Voici, et nous retrouvons le Deutéronome, chapitre 30, je place devant vous le chemin de la vie et celui de la mort. Qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste. Mais qui en sortira et se rendra aux Chaldéens, vos assaillants, vivra. Sa vie sauve sera son butin. Faites confiance à Babylone. Vous allez devenir des esclaves de Babylone. Bon, mais c'est comme ça, vous resterez au moins en vie. Si vous restez dans la ville... Et si vous luttez contre Babylone, vous n'en sortirez plus. Car, et alors, hein, j'ai tourné ma face contre cette ville pour son mal, non pour son bien, oracle du Seigneur. Elle sera livrée aux mains du roi de Babylone qui l'incendiera. Bon, ce texte date probablement aussi d'après la destruction de Jérusalem. On a mis aussi un oracle qui est adressé à la maison royale, c'est-à-dire hein, au roi, c'est-à-dire Sédécias, qui fait fonction d'eux, puisque c'est encore un descendant de Josias, et à toute sa cour. À la maison royale de Juda, écoutez la parole du Seigneur, maison de David, ainsi parle le Seigneur, rendez chaque matin droite justice, et tirez l'opprimé des mains de son oppresseur. Autrement, ma colère va jaillir comme un feu et brûler sans personne pour l'éteindre. C'est à toi que j'en ai, qui t'es installé au roc dans la plaine, oracle du Seigneur. Le roc dans la plaine semble être la colline de l'Ophel, où était située la maison royale. À vous qui dites, qui oserait fondre sur nous et pénétrer en nos repères? Je vous visiterai comme le mérite vos actions, oracle du Seigneur. Je mettrai le feu à sa forêt, il dévorera tous ses alentours. pas encore un oracle qu'on a ajouté ici parce qu'il s'agissait, de Sédécias. Et on voit bien qu'ici, dans cette dernière partie des oracles de Jérémie, on voit bien qu'on a mis, je dirais, un peu tous les oracles qui restaient. Ils n'avaient pas pu trouver leur place ailleurs, et on a tout mis ici. Donc, je reprends ces oracles, mais qui n'ont pas beaucoup de suite les uns avec les autres. Du moins, on ne les perçoit pas. Ainsi parlant le Seigneur, descends au palais du roi de Juda. Là, tu prononceras cette parole. Écoute la parole du Seigneur, roi de Juda qui siège sur le trône de David. Toi, ainsi que tes serviteurs et tes gens qui entrent par ces portes. Ainsi parle le Seigneur, pratiquez le droit et la justice, tirez l'opprimé des mains de son oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence, ne versez pas le sang innocent en ce lieu. Car si vous vous appliquez à observer cette parole, alors, par les portes de ce palais, des rois siégeant sur le trône de David feront leur entrée, montés sur des chars et des chevaux, eux, leurs serviteurs et leurs gens. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, ce palais deviendra une ruine. Ce sont des répétitions, nous avons déjà vu cela, mais vous voyez bien que tout ce qu'il demande vient du Deutéronome. Vous avez deux écoles de droit en Israël à l'époque. Vous avez l'école de droit qui met le Seigneur au centre, et c'est cette école qui a composé le livre du Lévitique, c'est-à-dire l'organisation du temple, des sacrifices, de la vie de tous les jours, du pur et de l'impur, la réglementation de la vie, la réglementation de la vie sociale, de la vie sexuelle, etc. Et au centre de ce Lévitique, vous avez la personne, la présence de Dieu et le temple de Jérusalem. C'est, on pourrait dire, la vie sacrée. Et cette tradition de la vie sacrée est demeurée à travers toute l'histoire d'Israël, avant l'exil, et après l'exil, et pendant toute la suite des siècles. Et puis vous avez l'autre école qui est plus humaniste, dirons plus socialisante, l'école deutéronomiste, qui fait davantage attention d'abord aux liens entre les hommes, à la société. Et c'est ce que vous avez ici. Et donc dans le code du Deutéronome, le code du deutéronomiste, on se base pour faire le droit et la justice sur le plus petit. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger qui habite chez toi. Si vous faites attention au plus petit, eh bien, il n'y a rien à faire. L'ordre et le droit et la justice seront présents dans votre vie sociale. Commencez par ces rapports entre vous. L'autre dit plutôt, commencez par vivre une vie avec Dieu, et alors votre vie deviendra vraiment une vie de sainteté. La gauche et la droite, la gauche deutéronome, faire attention au prochain, plutôt socialisant, et la droite. Et vous avez encore ces deux dimensions dans l'Israël d'aujourd'hui, les travaillistes et le Likoud. Qu'est-ce qui est le plus important? La régulation de la vie selon un ordre religieux ou selon un ordre social? Et ces deux traditions, vous les trouvez dans la Bible, l'une à côté de l'autre. Il faut toujours un va-et-vient entre les deux. Oui, ainsi parle le Seigneur au sujet du palais royal de Juda. Tu étais pour moi comme un Galaad. Le Galaad, c'est l'endroit des forêts. verdoyant, comme une cime du Liban, aussi des forêts. C'est-à-dire qu'on construisait en cèdre du Liban, ou bien en bois venant de Galade. Vrai, je vais te réduire en désert, en ville inhabitée, je prépare contre toi des destructeurs, chacun à sa cognée, ils abattront les plus beaux de tes cèdres qu'ils jetteront au feu. Et quand des païens en foule passeront près de cette ville et se diront entre eux, tiens, pourquoi le Seigneur a-t-il traité de la sorte une si grande cité? On répondra, c'est qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, leur Dieu, pour se prosterner devant d'autres dieux et les servir. Et toujours, hein, le même ronron. Ne pleurez pas celui qui est mort, le roi. Ne faites pas pour lui de lamentation. Pleurez amèrement celui qui est parti, car il ne reviendra plus, il ne verra plus le pays natal, celui qui est parti en exil. Ainsi a parlé le Seigneur sur Shalom, Joachaz, qui est mort d'ailleurs, fils de Josias, roi de Juda, qui fut roi à la place de son père Josias, et dut quitter ce lieu. Il n'y reviendra plus. Mais à l'endroit où on l'emmena prisonnier, il mourra, et ce pays-ci, jamais il ne le reverra. Malheur à qui bâtit son palais sans la justice, et ses chambres hautes sans le droit, qui fait travailler pour rien son prochain, sans lui verser son salaire, qui se dit, je vais me bâtir un palais imposant avec de spacieuses chambres hautes. Ah, c'est le roi qui veut se construire un nouveau palais. Et qui perce des ouvertures, le lambris de cèdre, le peint en rouge. Ne ferais-tu figure de roi quand te distinguant pour le cèdre? Ton père, n'est-ce pas, mangeait et buvait, mais il pratiquait la justice et le droit, allusion à Josias. Alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du malheureux, alors tout allait bien. Me connaître, n'est-ce pas cela, oracle du Seigneur? Me connaître, c'est faire attention, petit. Mais rien ne captive tes yeux et ton cœur, sinon ton intérêt propre, le sang innocent à répandre, vexation et violence à perpétrer. Aussi, le Seigneur a parlé de la sorte sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Malheur à cet homme-là. Pour lui, point de lamentation. Hélas, mon frère, hélas, ma sœur, pour lui, point de lamentation. Hélas, Seigneur, hélas, sa majesté. Il aura l'enterrement d'un âne. On le traînera pour le jeter hors des portes de Jérusalem. Il faudrait un peu comparer ces oracles à une sorte d'éditorial dans un journal. Hein? Un petit entrefilet là, hein? Une petite parole dosée comme ça pour chaque jour. Monte sur le Liban pour crier, sur le Bashan vocifère, crie du haut des Abarim, car tous tes amants sont écrasés. Je t'ai parlé au temps de ta sécurité. Tu as dit, je ne veux pas écouter. Ce fut ton habitude depuis ta jeunesse de ne pas écouter ma voix. Tous tes pasteurs, le vent les enverra paître, et tes amants partiront en exil. Oui, maintenant tu es honteuse et confuse de toute ta perversité. Toi qui as établi ta demeure sur le Liban, ton nid parmi les cèdres, le Liban, ça veut dire, hein, tu as lambrissé toute ta demeure, de grands panneaux de cèdre, hein, que tu as fait venir du Liban, et tu en as fait un palais somptueux, lambrissé, comme dans le temple de Jérusalem d'ailleurs, lambrissé de cèdre, c'est pour ça que ça a si bien brûlé. Toi qui établis ta demeure sur le Liban, ton nid parmi les cèdres, comme tu vas gémir, quand des douleurs te viendront, des affres, comme à celle qui accouche. Par ma vie, oracle du Seigneur, même si Conias, fils de Joachim, Yéconias, fils de Joachim, roi de Juda, autre nom de Joachim, était un anneau à ma main droite, je l'en arracherai. Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, aux mains de ceux qui te font trembler, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et aux mains des Chaldéens. Et je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté, dans un autre pays. Vous n'y êtes pas nés, mais vous y mourrez. Mais ce pays où ils désirent en revenir, ils n'y reviendront pas. Donc, manière de parler de l'exil. Est-ce un ustensile vil et cassé que ce cognasse, ou un objet dont personne ne veut? Pourquoi sont-ils chassés, lui et sa race, jetés dans un pays qu'ils ne connaissaient point? Terre, 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 écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, inscrivez cet homme sans enfant, quelqu'un qui n'a pas réussi dans son temps, car nul de sa race n'aura chance de siéger sur le trône de David et de régner en Juda. Vous comprenez quand même qu'après des paroles comme ça, on puisse le mettre en prison, hein? C'est ce qui va lui arriver, bien entendu. Alors, oui, il y aura encore deux ou trois pages à lire, je vais quand même les prendre, mais c'est beaucoup de répétitions. D'abord, contre les pasteurs, c'est-à-dire les gouvernants, le roi et sa cour, bien entendu. Malheur aux pasteurs qui laissent périr et se disperser le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur, donc c'est le thème de ceux qui délaissent le troupeau. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui ont à paître mon peuple. Vous avez laissé s'égailler et s'égarer mes brebis, c'est toujours mes brebis, et vous ne vous en êtes pas occupés. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous, pour vos méfaits, oracle du Seigneur. Mais je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurais dispersées, c'est le thème du reste qui revient, et je les ramènerai, chouves, dans leurs prairies. Elles seront fécondes et multiplieront. Je susciterai sur elles des pasteurs qui s'emploieront à les faire paître. Elles n'auront plus crainte ni terreur. Aucune ne se perdra, oracle du Seigneur. Ce chapitre 23e de Jérémie fait exactement pendant au chapitre 34e d'Ézéchiel, où justement les gens qui devraient se soucier du peuple n'en ont cure et ne cherchent que leur profit. Le roi et les gouvernants. Et alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va s'occuper lui-même de son troupeau. Là, nous trouvons le début, les prémices de ce qu'on appelle le messianisme. Les rois qu'on a eus jusqu'à présent, excepté les deux, hein, Ézéchias et Josias, ne valent absolument rien. Ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils ne conduisent pas le peuple, ce sont donc de mauvais pasteurs. Et cela fait désirer un pasteur comme David et Salomon, les 80 années, où effectivement le royaume d'Israël a été unifié. Pendant 80 ans, c'est tout. 40 ans David, 40 ans Salomon. Avant, il n'y avait pas encore l'unité des 12 tribus, c'est David qui l'a faite. Après Salomon, hein, de nouveau, les deux, le nord s'est séparé du sud, les deux royaumes ont commencé d'exister. Et cela, jusqu'en 1967. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Voilà, ça c'est ce que nous appelons le Messie. C'est-à-dire un homme, un roi, Mashiach, hein, un roi, semblable à David et à Salomon. Mais c'est déjà un David et un Salomon un peu mythique, hein. Et donc ça c'est l'idée messianique qui commence à germer, c'est le cas de le dire. Un germe juste. Ce terme de germe est vraisemblablement repris à Isaïe, lorsqu'il parle du germe de David, de l'arbre généalogique de David. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste, qui régnera en vrai roi. Il sera intelligent. L'intelligence était le signe de Salomon. Exerçant dans le pays droit et justice. Donc, c'est rappeler Salomon. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera. Et il y a un jeu de mots, évidemment, sur Sédécias, puisque Sédécias veut dire Sédec, justice, Yah, le Seigneur. Et on appellera le nom de cette ville, Seigneur, notre justice. Tzidkenu, Adonai Tzidkenu. Voilà, ça c'est vraiment l'idée messianique qui commence à travailler. De quand date-t-elle ? Bon, peut-être, l'idée est déjà venue devant l'incurie des derniers rois, c'est bien possible, mais c'est surtout après l'exil que cette idée s'est implantée, faisant désirer finalement quelqu'un qui soit un vrai lieutenant de Dieu et qui redonne l'unité et le lustre au peuple d'Israël. Aussi voici venir des jours, vous voyez que ces oracles sont mis vraiment bout à bout, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus « Le Seigneur est vivant qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte », nous avons déjà vu cela au chapitre 16, « Mais le Seigneur est vivant qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays du Nord » et de tous les pays où il les avait dispersés, pour qu'ils puissent demeurer sur leur propre sein. Un petit couplet aussi sur les prophètes. Sur les prophètes. Mon cœur en moi est brisé. Je tremble de tous mes membres. Je suis pareil à un homme ivre, à quelqu'un que le vin a dompté à cause du Seigneur et de ses paroles saintes. Comment voir, ou comment faire le bon choix entre prophète et prophète? Vous avez, avant les élections, vous avez les différents programmes, vous avez devant vous. Vous demandez, tiens, comment faire le bon choix? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qui dit la vérité? Pas facile, hein? Et voilà. C'est un peu ça. Le pays est rempli d'adultère. Oui, par la faute de ces gens, le pays est en deuil et les packages du désert sont desséchés. On court au mal, on s'efforce à l'injustice. Oui, même prophètes et prêtres sont des impies. Jusqu'en ma maison, j'ai trouvé leur malice, oracle du Seigneur. Aussi, leur voie va se changer pour eux en fondrière. Engagés là dans les ténèbres, ils y culbuteront. Car je vais amener sur eux une calamité l'année où ils seront visités, oracle du Seigneur. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des insanités. Ils prophétisaient au nom de Baal, ils égaraient mon peuple Israël. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des horreurs. Les uns ne valent pas mieux que les autres. L'adultère, l'obstination dans le mensonge, le soutien donné aux scélérats, au point que nul ne revient de sa scélératesse. Revient, c'est de nouveau se convertir. Ils sont tous pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorre. Ça, c'est une vieille comparaison qui date également de Jérémie, d'Isaïe. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées sur les prophètes. Voici, je vais leur donner de l'absinthe à manger et de l'eau empoisonnée à boire. Car venant des prophètes de Jérusalem, l'impiété s'est répandue dans tout ce pays. Ainsi parle le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes, ils vous dupent, ils débitent des visions de leur cœur. Rien qui vienne de la bouche du Seigneur, ils disent à ceux qui méprisent la parole du Seigneur, vous aurez la paix. C'est toujours la même chose. La paix, la paix. Mais il n'y a pas de paix. Et à tous ceux qui suivent leur cœur endurci, aucun mal ne viendra sur vous. Mais qui donc a assisté au conseil du Seigneur? Qui l'a vu et entendu sa parole? Qui a fait attention à sa parole pour l'annoncer? Voici une tornade, une bourrasque du Seigneur qui éclate, un ouragan se déchaîne sur la tête des impies, il fait irruption. La colère du Seigneur ne se détournera pas, ne reviendra pas. Qu'il n'ait accompli et réalisé le dessein de son cœur, votre cœur, son cœur. Dans l'avenir, vous comprendrez cela clairement. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent. Je ne leur ai rien dit, et ils prophétisent. Ont-ils assisté à mon conseil? Alors qu'ils annoncent mes paroles à mon peuple, qu'ils fassent revenir les gens de leur voie mauvaise, de la perversité de leurs actions. Ne serais-je un Dieu que de près, oracle du Seigneur? De loin, ne serais-je plus un Dieu? Un homme peut-il se terrer dans une cachette sans que je le voie, oracle du Seigneur? Est-ce que le ciel et la terre ne les remplissent pas, oracle du Seigneur? J'ai entendu comment parlent les prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges. Ils disent, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Combien de temps auront-ils cette pensée au cœur, les prophètes qui prophétisent le mensonge et annoncent l'imposture de leur cœur? Vous voyez, nous arrivons petit à petit au discernement du cœur. C'est le cœur qui discerne. Et où mettons-nous notre cœur? Ils prétendent avoir les songes qu'ils se racontent l'un à l'autre. Faire oublier mon nom à mon peuple. Ainsi leurs pères ont oublié mon nom au profit de Baal. Le prophète qui a un songe, qu'il raconte son propre songe. Et celui qui tient de moi une parole, qu'il délaie fidèlement ma parole. Comment juger? Comment savoir? Qu'ont de commun la paille et le froment? Oracle du Seigneur. Ma parole ne brûle-t-elle pas comme le feu? N'est-elle pas comme un marteau qui pilonne le roc? Aussi je vais m'en prendre au prophète, oracle du Seigneur, qui se dérobe mutuellement mes paroles. Je vais m'en prendre au prophète, oracle du Seigneur, qui n'ont qu'à déclencher leur langue pour émettre des oracles. Je vais m'en prendre au prophète, qui prophétise des songes mensongers, oracle du Seigneur, qui les raconte et égare mon peuple par leurs mensonges et leurs extravagances. Moi, je ne les ai ni envoyés ni chargés de mes ordres. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle du Seigneur. Et quand ces gens, ou un prophète, ou un prêtre, te demanderont quel est le fardeau du Seigneur. Fardeau, c'est un autre nom pour oracle. Quel est le fardeau du Seigneur? Tu leur répondras, c'est vous, le fardeau du Seigneur. Vous, dont je vais me délester, oracle du Seigneur. Et le prophète, le prêtre, ou l'homme quelconque qui dira, fardeau du Seigneur, je le visiterai cet homme-là, ainsi que sa maison. Voici comment il vous faudra dire entre vous l'un à l'autre, qu'a répondu le Seigneur ou qu'a dit le Seigneur? Mais n'utilisez plus l'expression « fardeau du Seigneur ». Autrement, pour quiconque l'emploie, elle pourrait bien être pesante. Car vous pervertissez les paroles du Dieu vivant, le Seigneur des armées, notre Dieu. Il faut donc dire à un prophète « que t'a répondu le Seigneur » ou « qu'a dit le Seigneur ». Mais au cas où vous diriez « fardeau du Seigneur », ainsi parle le Seigneur, puisque vous employez cette expression « fardeau du Seigneur » alors que je vous ai fait avertir de ne plus dire « fardeau du Seigneur », pour cela je vous soulèverai et vous jetterai loin de ma face, vous, avec la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, et je mettrai sur vous une honte éternelle, une confusion éternelle et inoubliable. Et il termine, et nous avons la fin de ces oracles, par un nouvel apologue, un songe, Voilà que le Seigneur me fit voir deux corbeilles de figues. Les figues, je vous rappelle, symbolisent les commandements, la loi, les commandements. Mais les figues sont le produit de la loi. Deux corbeilles de figues disposées devant le sanctuaire du Seigneur. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut emmené captif loin de Jérusalem Yéconias, ou bien Yoyakin, fils de Yoyakim, roi de Juda, ainsi que les grands de Juda, les forgerons et serruriers, et les eut amenés à Babylone. Donc en 597, donc premier siège de Jérusalem, première prise de la ville, et première déportation. Donc à la fin du règne de Sédécias, le dernier descendant de Josias. Et donc c'était après ce premier siège et avant le second siège de Jérusalem. Car le roi de Babylone, alors qu'on était, il avait déjà emmené des captifs, qu'est-ce qu'il emmène comme captifs? Eh bien, les rois ou ses descendants, Yéconias, fils de Joachim, roi de Juda, ainsi que les grands de Juda, c'est-à-dire les gouvernants, les forgerons et serruriers, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent faire des armes. C'était la coutume des Assyriens, puis des Babyloniens, c'était d'emmener tous les leaders politiques, tous ceux qui pourraient être leaders politiques, les chefs du Hamas, aujourd'hui, ceux-là qu'il faut faire disparaître. Et quand vous avez enlevé la tête, il ne reste plus que ceux qui sont capables de faire des armes. Alors, si vous enlevez tout cela, ceux qui sont capables de faire des cocktails Molotov, etc., mais il ne reste plus de gens qui sont capables de s'opposer. Eh bien voilà, en 97, on fait disparaître tous ces gens-là, et voilà que, c'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut emmené captif loin de Jérusalem, Yéconias, fils de Joachim, roi de Juda, donc c'est Yoyakin, ainsi que les grands de Juda, les forgerons, les serruriers, et les eut amenés à Babylone. Une corbeille contenait d'excellentes figues, comme sont les figues précoces, les bonnes. L'autre en contenait de gâtées, si gâtées qu'elles étaient immangeables. Et le Seigneur me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je demande s'il a encore toute sa tête. Je répondis, « Des figues, les bonnes sont excellentes, les mauvaises sont gâtées, si gâtées qu'on ne peut les manger. » Alors la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, comme à ces bonnes figues, ainsi je veux m'intéresser, pour leur bien, aux exilés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens. Ah tiens, les bons, ce sont ceux qui sont partis. Donc ce sont les mauvais qui restent. Je veux fixer les yeux sur eux, pour leur bien, les faire revenir en ce pays, après coup, les reconstruire au lieu de les démolir, les planter au lieu de les arracher. Je leur donnerai un cœur pour connaître que je suis le Seigneur. Autrement dit, ces gens qui sont en train de partir en exil, ils vont redécouvrir dans leur exil la réalité profonde, ce qui les fait vivre. Et je vais les conserver pour qu'ils puissent revenir par après pour ensemencer la terre. Je leur donnerai un cœur pour connaître que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. C'est toujours cette parole d'alliance. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Et dans ce petit passage, ces deux versets, vous avez deux fois le mot « revenir » avec les deux sens. Je les ferai revenir en ce pays, c'est-à-dire retourner dans le pays, et ils reviendront à moi, ils se convertiront. de tout leur cœur. Mais, comme on traite les mauvaises figues si gâtées qu'elles en sont immangeables, oui, ainsi parle le Seigneur, ainsi traiterai-je Sédécias, roi de Juda, ses grands, et le reste de Jérusalem. Ceux qui sont restés dans ce pays, comme ceux qui habitent au pays d'Égypte, c'est-à-dire les égyptophiles, en quelque sorte. Ça, c'est des figues pourries, des figues gâtées. Ceux qui vont à Babylone, ça va. On va pouvoir se fonder dessus, parce qu'ils vont faire une expérience profonde. Dure, mais profonde. Tandis que ceux qui sont ici sont irrémédiablement gâtés. J'en ferai un objet d'horreur pour tous les royaumes de la terre, un opprobre, une fable, une risée, une malédiction en tout lieu où je les chasserai, c'est-à-dire l'Égypte. Et j'enverrai contre eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol que j'avais donné à eux et à leur père. Donc c'est en quelque sorte le double jugement. Le jugement pro-babylonien, ceux qui s'en vont à Babylone, bon, ils vont subir un exil difficile à vivre, mais ils en sortiront purifiés. Tandis que sur les égyptophiles, on ne peut rien construire. Donc ça, c'est son option politique, l'option qu'il prend. Et il la prend uniquement sur ce fait, je vous en ai déjà parlé, puisque on a fait alliance avec Babylone, il faut tabler sur cette alliance, il faut être fidèle à sa parole. Là, au moins, il y a une fidélité qu'on peut observer. Babylone ne vaut pas mieux que l'Égypte, et l'Égypte ne vaut pas mieux que Babylone. Mais vous avez donné votre parole. Et vous verrez que, sur ce point-là, il reste toujours, toujours fidèle. La parole donnée, le contrat qui est fait. Voilà. Nous allons nous arrêter ici, si vous voulez bien.